Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Bretagne 5, l'invité de la matinale.
Et notre invité politique ce lundi matin est Maël Aigron. Il est porte-parole du Parti breton. Il est également secrétaire de la Fédération Ille-et-Vilaine et il a fait la route depuis Rennes pour être avec nous ce matin. Je l'en remercie. Bonjour.
Bonjour Monsieur Abon, bonjour à tous les auditeurs de Bretagne 5.
Voilà, je vais juste vous demander de vous rapprocher un tout petit peu du micro, pour qu'on vous entende un petit peu mieux. On va parler de politique ce matin, mais je voulais faire une petite clarification. On parle beaucoup du Parti breton, vous êtes souvent venu vous exprimer au micro de la matinale de Bretagne 5, et je voulais faire cette petite clarification parce que souvent on confond le Parti breton avec le Parti national breton. Alors j'aimerais que vous fassiez cette petite clarification.
Le Parti breton est un parti qu'on va dire plutôt centriste, qui a été créé dans les années 2000, qui est un parti démocrate, qui a une charte dont le fait que toute personne extrémiste est directement écartée du parti. En fait, on ne va pas s'amuser à mettre des gens d'extrême gauche ou d'extrême droite dans notre parti, parce que ça pourrait créer beaucoup de malheurs en interne. Et donc, on n'a rien à voir avec le Parti national breton, qui est un groupuscule aujourd'hui, dit politique, qui a fait sa résurgence il y a 2-3 ans maintenant, qui est surtout présent sur les réseaux sociaux et qui, pour le coup, est un parti fasciste, un parti d'extrême droite qui a une volonté d'une politique qui sera autoritaire, qui souhaite interdire des syndicats étudiants, qui souhaite interdire des partis politiques, qui ne laissera aucune place dans d'éventuelles juridictions à d'anciens bretons qui auraient été dans des partis français. Donc nous n'avons rien à voir avec ces gens-là, je tiens à le dire, et de façon claire. Nous ne sommes pas alliés au Parti National Breton, nous ne sommes pas le Parti National Breton et nous ne travaillerons jamais avec le Parti National Breton.
Voilà, cette clarification était nécessaire, effectivement, en guise de préambule. Maël Aigron, on voit aujourd'hui une vie politique qui se cristallise beaucoup, qui se déchire aussi un petit peu à gauche, il faut bien le dire. Il y avait ce rassemblement de la gauche bretonne avec le souffle breton à Liffré ce week-end, où plusieurs figures socialistes était présente. On a le sentiment d'une gauche qui se divise, y compris ici en Bretagne. Alors quand j'entends elle se divise, on va revenir aussi sur le discours de Jean-Luc Mélenchon, c'était jeudi dernier à Brest. Est-ce que l'on peut dire aujourd'hui qu'il y a une fracturation de la vie politique bretonne ?
À gauche comme à droite, sur tous les plans, en fait, oui, il y a complètement une fracturation politique bretonne. Même nous, dans le mouvement breton, il y a une fracturation assez importante aussi entre les différentes composantes de l'EMSAV, comme on dit. Et oui, on le voit tout à fait à gauche. Quand on voit ce qui s'est passé à Liffré aujourd'hui, il y avait des grandes personnalités françaises du socialisme. Il y avait le président Hollande, il y avait Raphaël Glucksmann, il y avait Najat Vallaud-Belkacem. Mais au niveau local, il y avait M. Chesnais-Girard, M. Chenu, le président du département. Mais il y avait surtout, et il n'y avait pas, Madame Mapéré, qui est la maire de Rennes, présidente de Rennes Agglomération. Et donc on se demande comment ça se fait que dans un événement qui se veut aussi important que le printemps du souffle breton de M. Chesnais-Girard, comment ça se fait que Madame Mapéré, qui est quand même l'une des figures les plus éminentes du PS en Bretagne, n'avait pas sa place dans ce genre d'événement? Est-ce qu'elle a refusé? Est-ce qu'elle avait autre chose à faire? C'est vrai que c'est la grande absence de cet événement.
Avec, sans doute pour Nathalie Appéré, la difficulté de gérer aussi sa ville, avec d'autres composantes, on pense aux écologistes, on pense aussi à la France insoumise, très présente à Rennes. Est-ce qu'elle est là, justement, cette fracturation de la vie politique à gauche, pour le coup?
Je ne pense pas que Mme Appéré souhaite ou veut un rapprochement avec la France insoumise. Pour avoir été à la France insoumise il y a des années... c'était bien différent, hein. Il y avait vraiment un bloc LFI et un bloc PS. Madame Appéré sait que le PS est encore très vivace en Bretagne, très fort. Elle sait qu'elle peut défendre un bilan, même si bon, il y a des choses à dire sur son bilan aussi. Mais elle n'a pas besoin d'LFI, Madame Appéré, pour se créer une majorité municipale. Je pense qu'elle a plus à craindre de mouvements comme Libre d'agir pour Rennes de Charles Compagnon ou de la Nouvelle Droite qui commence à s'installer, même la montée de l'extrême droite. Je pense que LFI reste, même s'ils ont fait des scores très importants aux dernières élections, ils n'ont pas toujours été là au rendez-vous dans les élections municipales.
Et puis il y a une fracture au niveau national, il faut bien le voir, entre le PS et LFI. Et puis il y a eu ce discours de Brest, de Jean-Luc Mélenchon en fin de semaine, et cette polémique avec nos confrères du Télégramme en particulier, traité de bulletin paroissial. Ça nous donne l'occasion de le renouveler, toute la solidarité de la rédaction de Bretagne 5. Qu'est-ce qui fait quand même que Jean-Luc Mélenchon s'agresse comme ça aux journalistes? Et finalement, une posture assez jacobine, alors je pense que ça va vous parler, voilà, en disant, bon, les Bretons, on n'en a rien à faire, ce qu'on veut, c'est un projet national, mais on a quand même besoin de réunir quelque part aussi.
Alors, dans un premier temps, je tiens à porter, bien sûr, au nom du Parti Breton, tout notre soutien à vos collègues du Télégramme et à toute la rédaction, à M. Coudurier. Et en ce qui concerne M. Mélenchon, vous savez, moi j'ai été 4 ans à la France Insoumise, de sa création jusqu'à peu après les élections européennes et avant les régionales. Et il y avait déjà ce genre de problème en fait avec M. Mélenchon, c'est qu'il a dit aux dernières présidentielles, à la fin, il a dit « faites mieux ». Mais il reste toujours là, il reste toujours derrière et il cause beaucoup de tort aux militants et aux élus de la France Insoumise. Ce qu'il a dit au Télégramme, qui est coup sur coup, parce qu'il y a eu une première caricature où il a taxé d'islamophobe le Télégramme, ce qui est quand même très très gros déjà. Puis ensuite, une deuxième caricature pour répondre à M. Mélenchon, qui cette fois-ci a été ils ont traité de grossophobe le Télégramme, donc ils ont le droit de dire tous les noms en fait pour le Télégramme, qui reste quand même un journal très très modéré sur plein de choses, qui a reçu plein de gens, qui fait une place à tous les partis pendant les périodes électorales. Et il a parlé du Télégramme en parlant de trumpisme médiatique. Mais quand on voit M. Mélenchon, qui fait du Trump, c'est plutôt lui, en fait, finalement, parce que sa manière de répondre aux journalistes, on l'a vu à France 3 aussi, pas longtemps, et il a complètement pété un câble, si j'ai envie pour le dire, face aux journalistes. Il fait du Trump, en fait. Il a un ego surdimensionné. Le fait d'avoir été biberonné par la République française pendant des années le met sur un statut complètement... il se croit au-dessus de tout le monde. En fait, il fait partie de ces aristocrates de la République, des gens qui ont fait de la politique toute leur vie, qui ont toujours été élus et qui aujourd'hui se prennent pour l'État, comme il a dit. Il n'a pas dit l'État c'est moi, mais il a dit la République c'est moi. Donc c'est un très gros problème pour la France Insoumise, pour des citoyens qui veulent s'engager en politique, de voir que finalement un parti qui se veut démocrate et populaire, finalement, bah, il marche sur des élus de métier, quoi.
Avec aussi ce côté, alors qui lui est reproché, d'antisémitisme, ou en tout cas de favoriser la dissipation de ses idées dans la société française, et bretonne aussi, on l'entend de plus en plus, alors que la Bretagne était épargnée par ces problématiques quelque part. Voilà, en Bretagne, les gens arrivent à discuter, parfois fort, mais arrivent à discuter. Est-ce que c'est inquiétant, cette petite musique et d'antisémitisme quelque part, et aussi, là encore, du jacobinisme hein, qui essaie de progresser dans les idées bretonnes.
Bah, ils ont une posture très autoritaire, et ils sont pour un État central fort, donc ce qu'on appelle nous communément le système jacobin, en fait, qui fait que le pouvoir est dans les mains de Paris, de certains élus, et qu'ils ont une mainmise sur tout ce qui se passe, et finalement, au local, on a très peu de capacité d'agir. Donc ça fait très peur.
Y compris économiquement, finalement.
Mais surtout, en fait, sur politique culturelle, quand on voit le budget de la culture, qu'il y a plus de la moitié sur Paris, pour se partager avec les 50 millions d'autres citoyens qui doivent se partager les restes du part du gâteau, c'est quand même... il faut remettre en question ce système jacobin. Il faut un système beaucoup plus délocalisé, beaucoup plus fédéral dans son fonctionnement, et qui permet aux institutions locales d'agir. Parce que si demain, que ce soit l'extrême droite ou l'extrême gauche, ou quelqu'un dans n'importe quel parti, mais qui pèterait un câble, et qui a la force de l'État français dans les mains, parce que c'est le président, hein, il tient l'État français dans ses mains. Donc en fait, notre système est complètement dépendant des bonnes humeurs politiques des personnes qui nous gouvernent. On peut le voir maintenant avec ce qui se passe en Ukraine, avec Macron qui commence à vouloir jouer des coups, jouer des muscles. Il faut faire très attention avec ce système politique-là, parce que s'il veut nous embarquer dans quelque chose, il le fera.
Avec toutes les conséquences qu'on peut imaginer. Est-ce qu'il faut plus, je vais prononcer le mot qui a longtemps fait peur, est-ce qu'il faut plus d'autonomie pour les régions, pour la Bretagne, on va plaider pour notre chapelle, est-ce qu'il faut plus d'autonomie aujourd'hui, plus de pouvoir de décision, tout en restant dans un État français qui a les choix régaliens, on peut imaginer pour l'armée, on faisait allusion à l'instant à cette économie de guerre hein, dont on parle beaucoup en ce moment, est-ce que justement c'est peut-être le moment d'avoir un tournant pour la Bretagne, une réflexion pour la Bretagne et peut-être un apaisement aussi?
Vous prêchez un convaincu, forcément. L'autonomie,
je me doutais un peu de votre réponse.
Mais l'autonomie n'est qu'une étape politique pour nous, partis bretons. Nous, ce qu'on souhaite, c'est bien sûr l'autonomie. donc une capacité d'agir beaucoup plus de façon locale, puis passer sur un système fédéral, où là, on aura vraiment des États dans l'État, qui auront beaucoup plus de capacité d'agir au niveau économique, au niveau des gestions des flux migratoires, au niveau des gestions de l'immobilier, au niveau de plein de choses, en fait. Il faut tout englober, en fait. Toutes les capacités peuvent être prises en compte, quoi. Que ce soit la sécurité aussi. On pourrait avoir une police régionale, une gendarmerie beaucoup plus locale. On pourrait avoir des polices intercommunales. On pourrait avoir plein de choses, en fait, toutes les lacunes que l'État ne peut pas assouvir, on pourrait passer à ça. Et puis, par la suite, passer sur peut-être un État indépendant si les Bretons le veulent dans des années, quoi.
Alors, il y a encore du chemin, on aura compris, pour arriver à la finalité, mais aujourd'hui, vous parliez de sécurité, aujourd'hui, il y a une grande question qui est la sécurité, on le voit. Alors, il ne s'agit pas de pointer des villes en particulier, mais que ce soit des grandes villes comme Brest ou Rennes ou encore Lorient qui ont des problèmes avec le trafic de stupéfiants particulièrement, mais aussi des petites villes. On pourrait citer le cas de Saint-Brieuc plus proche de nous. Est-ce que le fait d'avoir une sécurité bretonne, alors je dis sécurité, je mets les guillemets, oui. En tout cas une police bretonne ou une gendarmerie plus locale, est-ce que ça peut être aussi une force pour lutter contre le trafic de stupéfiants, par exemple, en ayant des policiers ou des gendarmes ancrés dans le territoire et au courant du territoire, et plus nombreux peut-être?
La question du trafic de drogue, oui, peut être quelque chose qu'on peut mettre en main d'une police régionale qui pourra tout à fait gérer ça. Si on arrive à un contrôle plus important au niveau de nos ports, au niveau de notre frontière directe, que ce soit par la Loire Atlantique ou par l'Ille-et-Vilaine, qu'on arrive à avoir un meilleur contrôle à ces niveaux-là, pas mettre des frontières, mais si on peut se permettre d'avoir beaucoup plus de sécurité sur les parties limitrophes, parce qu'aujourd'hui, le trafic de drogue, c'est pas les productions locales qui abondent les marchés, c'est beaucoup de choses qui viennent des Pays-Bas, c'est beaucoup de choses qui viennent d'Espagne, c'est beaucoup de choses qui viennent des pays du Maghreb, et même en ce qui concerne la cocaïne, qui vient des pays du Nord-Amérique du Sud. Donc c'est quelque chose qu'aujourd'hui, la police et la gendarmerie sont sur ces sujets, forcément, mais il n'y a qu'à voir, par exemple, à Rennes, on va au quartier Italie, au bout de 2 minutes, on est servi, on a ce qu'il nous faut, quoi. C'est pour une personne qui consomme. Donc, et pourtant, la police est présente tous les jours, toutes les semaines. Il y a des descentes de la police, mais ça ne permet pas d'arrêter le trafic. C'est vraiment un gros problème pour les questions de santé, questions de sécurité. Pour nos jeunes, surtout, je pense aux jeunes, parce qu'ils tombent très rapidement là-dedans. Moi, je l'ai vu au lycée, quand j'étais au lycée à l'époque, il y avait énormément de jeunes qui consommaient des drogues. Et après, je l'ai vu avec l'université, je l'ai vu par la suite. Et maintenant, on sort en ville... Les drogues, c'est quelque chose de courant maintenant.
Rentré dans la société, finalement.
C'est complètement rentré dans la société. Beaucoup de jeunes des nouvelles générations, d'après les sondages, sont beaucoup moins attirés par ça que furent peut-être les générations des fins des années 90, début 2000, qui, eux, sont complètement tombés là-dedans. Mais c'est quelque chose de très, très grave et qu'il faut prendre à bras le cœur, quoi. Parce que moi, j'ai vu des amis avec le cannabis, par exemple... on sait que c'est une clé qui peut débloquer, entre guillemets, la schizophrénie, quoi. Et de voir des amis partir en hôpital psychiatrique ou faire des crises d'angoisse, il faut pas attendre de voir ça de ses yeux pour se remettre en question sur ces sujets-là, quoi. C'est aussi les premières personnes qui permettent ce trafic de drogue, ce sont aussi les consommateurs. Aujourd'hui, l'État, il fait l'hypocrite sur ces questions-là. Il sait qu'énormément de gens consomment. Et les produits qui sont actuellement sur le marché n'ont rien à voir avec ceux qu'il y avait il y a 20 ans, il y a 30 ans. C'est des produits très, très puissants qui n'ont rien à voir avec ce qui était fait avant. Et donc, c'est une question aussi de normes et tout ça. Et on voit que les Pays-Bas, ils arrivent à gérer ce problème-là. Le Portugal arrive à gérer ce problème-là. Et en France, on fait la politique de l'autruche où il y a un problème, on essaye de le combattre, mais on voit que nos moyens actuels sont inefficaces par rapport à ça. Et donc, on ne se pose pas d'autres questions. Est-ce qu'il faudrait légaliser? Est-ce qu'il faut dépénaliser? Est-ce qu'il faut faire plus de prévention? Il y a plein de choses à faire, en fait, sur ces sujets-là. Il faut bien sûr combattre ce trafic de drogue qui est infâme pour la Bretagne, quoi, qui est aujourd'hui une source de revenus hyper importante pour beaucoup de gens. Qui fait aussi travailler des mineurs, parce que c'est aussi le travail des enfants, hein, aussi le trafic de drogue. Hein. Dans les lycées, c'est pas des gens de 25 ans ou 30 ans qui vont vendre, hein, c'est les mineurs eux-mêmes qui gèrent les marchés, quoi.
Là aussi, il faut de la prévention, il faut de l'explication, il faut de l'éducation, on peut aller jusque-là.
Ah oui, je pense. Il faut faire peur aussi, il faut faire des coups de pression, il faut que des gens, même des jeunes qui sont liés à ces trafics-là, Bien sûr, c'est mieux de les réinsérer dans la société, de leur dire que ce qui est mal, mais s'il faut qu'ils fassent de la prison, il faut qu'ils fassent de la prison, tout à fait.
Là aussi, on peut imaginer un système judiciaire. Alors, breton, évidemment, ça restera du régalien, ça sera toujours relié à l'État français, à la République française, mais comment avoir peut-être une forme de laboratoire breton pour expérimenter des choses ?
Bah, la Bretagne est déjà un laboratoire sur plein de choses, hein. Elle l'a démontré hein, sur plein d'éléments. Hein. Donc oui, la Bretagne... Et ça, c'est surtout dans son statut, dans un premier temps, d'autonomie. C'est la capacité d'être un laboratoire politique, faire des expériences, voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Parce qu'un laboratoire, c'est aussi, bah, y a des choses qui ne fonctionnent pas forcément. Donc oui, il faut que la Bretagne puisse être un laboratoire, et un laboratoire autonome, qui ne soit pas, dont les idées ne soient pas dictées depuis Paris, que la Bretagne puisse faire émerger ses propres idées, que les Bretons puissent faire émerger leurs propres idées, et qu'on puisse tester des choses, dans un premier temps, dans un statut d'autonomie, qui serait un laboratoire.
Avec un débat possible avec tous les Bretons, une grande réflexion à l'échelle de la région. Alors j'entends de la région historique, hein, on va aller jusque-là. Un grand débat sur l'avenir de la Bretagne, son avenir économique, son avenir social, parce que là aussi, il y a des grands bouleversements. Ça va nous amener tout à l'heure à évoquer Donald Trump, parce que là aussi, ça a des répercussions, y compris sur notre région. Donc, est-ce qu'il faut avoir ce grand débat-là un jour ? Est-ce qu'il faut avoir le courage de le conduire de façon peut-être un peu transpartisane?
Bah, tout à fait, en fait. Il faut de la démocratie en Bretagne. La démocratie, c'est important. Il faut que les Bretons se mettent autour d'une table et discutent. Malheureusement, aujourd'hui, on passe par nos conseillers municipaux, on passe par plein de choses. Il y a des villes qui organisent des ateliers sur plein de sujets. Par exemple,
il y a trop de filtres actuellement, selon vous, trop de filtres pour
arriver. Il faut une démocratie plus participative et voire plus directe, quoi. Mais il faut que les gens discutent ensemble, quoi. Aujourd'hui, on est dans des guerres de factions entre extrêmes, gauche, droite, entre bretons, bretons, pas bretons, sur plein de sujets, en fait. Et ce qui est le problème, c'est qu'on ne discute pas assez, quoi. Quand on essaie de discuter, nous on l'a bien vu, hein, on était à Carhaix il y a 2 mois, on a commencé à mettre plein de gens autour de la table et on a vu que finalement, après il y a peut-être des gens qu'il ne faut pas mettre autour de la table, quoi, parce que la table a fini par être cassée, quoi, c'est ça aussi. Donc il faut discuter, il faut parler de plein de sujets et il faut que les Bretons se repolitisent, c'est très important.
Alors justement, la politisation de la vie bretonne, elle est là depuis très longtemps, on a toujours été une région plutôt assez calme, centriste, tantôt à gauche, tantôt à droite, mais enfin plutôt une région qui n'était pas habituée à des guerres politiques, il y en a eu quelques-unes évidemment, mais qui n'est pas habituée à des guerres politiques. On a l'impression qu'aujourd'hui la situation en Bretagne est un peu le calque de la situation dans le restant de l'Hexagone. C'est une situation qui se tend, une discussion qui devient difficile, y compris entre les partis politiques. On le voit aussi, vous parliez tout à l'heure, vous évoquiez en parlant du trafic de stupéfiants, la jeunesse et puis les étudiants. On voit aujourd'hui des étudiants qui n'arrivent plus à se parler, ces agressions à Rennes, par exemple, ces blocages des facs. Alors je dis des facs parce que les deux ont été bloqués. Est-ce que à un moment ou à un autre, il va falloir trouver un point d'apaisement au risque de voir la société bretonne éclater finalement?
Bien sûr, question est vaste. Oui, elle est très vaste et elle n'est pas simple à discuter. Bien sûr qu'il faut de l'apaisement. Qui va vous dire qu'il faut une société polarisée où les gens se tapent sur la gueule? Personne ne va vous le dire. Il faut forcément que la société s'apaise. Ce qui s'est passé à Rennes, notamment à Rennes 2, mais aussi dans la ville, on l'a vu, hein, c'est une colère qui a au fond des gens, et plus qu'une colère. Ça a amené à des dégradations matérielles hyper importantes. Et juste à Rennes 2, hein, depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui, on est sur 900 000 euros d'argent utilisés pour réparer des dégâts. 900 000 euros.
Au 100 000 euros pour la dernière.
Oui, 300 000 il y a un mois à peine. Et 500 000 en 2018 lors des manifestations Parcoursup, où j'étais à Rennes 2 à ce moment-là. Et c'est de l'argent jeté en l'air. Clairement, hein, c'est pas de l'argent qui sert à de la rénovation, c'est on met un coup de peinture, on répare les portes, on repart des choses cassées. Et c'est de l'argent, la société manque d'argent, et là on se permet de tout foutre en volo et de se permettre de perdre 900 000 euros sur 7 ans. Il faudra pas s'étonner si les étudiants perdent des choses comme le budget participatif par la suite, ou s'il y a encore des coupures dans les budgets d'université, parce que... on est dans une société où on ne peut pas se permettre de jeter de l'argent par les fenêtres, quoi. Donc il va falloir que l'université trouve un moyen de réagir, et ça sera peut-être des coupes, malheureusement.
Les étudiants, si la branche un peu sur laquelle ils sont assis, selon vous, ils n'ont pas conscience, quelque part. Alors, je ne dis pas qu'ils sont bêtes, attention, hein, je vais me faire griffer. Mais ils ne mesurent pas finalement qu'en dégradant, c'est eux qui vont payer les pots cassés au bout.
Alors que c'est qu'une partie des étudiants, bien sûr, hein, faut être
d'accord. Alors voilà, je généralise pas. Hein.
C'est une partie minoritaire des étudiants, même si en Assemblée Générale, on l'a vu, hein, des milliers hein, qui participent aux Assemblées Générales. Et si, ils en sont conscients parce qu'ils savent qu'on est dans une société, un état-providence, où il y a des millions et des millions qui peuvent être utilisés. Donc pour eux, la case matérielle n'est qu'un moyen de s'exprimer. Il n'y a qu'à voir à Rennes. Hein. Rennes est une ville de gauche, qui a été la deuxième ville de France à voter le plus, par exemple, pour la France insoumise. Bah, ça n'a pas empêché, il y a deux ans, à ce que la ville, qu'il y ait plein de choses qui brûlent, des petits commerces surtout, c'est ça qui m'a fait beaucoup de peine, des petits commerces qui se voyaient complètement défigurés. Pendant des mois, on a eu la ville de Rennes en mode comme si c'était une ville abandonnée où on voyait les commerces se cacher derrière des palissades, et ça on l'a vécu pendant des mois, et ouais, c'était pas très bon pour la ville, quoi. C'est pas du tout bon pour la ville. Je pense que les étudiants sont ceux qui cassent sont tout à fait conscients de ce qui se passe, mais il faut aussi qu'on les responsabilise. Tu casses, tu payes, et après tu pars. Parce qu'il faut être intransigeant avec ces gens-là, et ils pourrissent les facs. Même s'il y a plein de bonnes volontés dans beaucoup, hein, parce que peut-être ils sont beaucoup en âge à voter le bocage, mais ils sont pas tous les gens qui ont voté le bocage ne sont pas pour qu'on détruise la fac ou qu'on fasse du dégât. Détruire, c'est peut-être un gros mot, mais ils sont pas pour la destruction. Donc il faut isoler certains individus, et ils ont eu la chance de pouvoir avoir accès à l'université. C'est ça aussi, hein. Moi, je fais partie d'une famille populaire. J'ai eu une chance immense d'habiter à l'université, une chance immense d'habiter très proche de l'université, donc pas avoir de frais d'universitaire à payer ou de choses comme ça, d'avoir la chance d'avoir été boursier. Moi, j'ai jamais cassé parce que je suis conscient de la chance que j'ai eue. Mais aujourd'hui, la vie étudiante, elle est très chère, les loyers à Rennes sont très très chers, les coûts de la vie augmentent, et je comprends pas que certains étudiants trouvent ça logique de casser, quoi.
Il y a une forme de fracture sociale, justement, à ce niveau-là. Alors, il faudrait beaucoup plus de temps, évidemment, j'imagine, mais il y a une forme de fracture sociale, finalement, avec ces étudiants qui cassent, qui vont effectivement ne pas imaginer que certains de leurs collègues, des jeunes qui sont à leur côté, viennent de milieux plus, alors vous disiez populaires, mais peut-être qu'ils n'ont pas forcément le moyen de payer des études à leurs enfants, voilà. Et c'est ceux-là, finalement, qui vont payer les pots cassés aussi.
C'est ceux-là, et c'est également les personnes qui décident de faire des reconversions professionnelles, qui ont travaillé, par exemple, toute leur vie dans des domaines qui ne les plaisaient pas, et qui se disent, aujourd'hui, j'ai la chance de faire des études, de pouvoir reprendre une vie, de pouvoir, je ne sais pas, je vais peut-être pouvoir faire enseignant, je vais peut-être pouvoir faire plein de choses, quoi. Et ces gens-là aussi, qu'on ne parle jamais finalement, des personnes en reconversion qui réussissent à revenir à l'université, qui auront beaucoup moins de droits aussi pour l'université, qui doivent payer de plein pot plein de choses, quoi. Et ces gens-là, on n'en parle pas, et eux, bah, on ne les entend pas non plus trop s'exprimer, mais ils sont aussi victimes de ça. Et il faut le dire aussi, il faut le dire, quoi. Il ne faut pas laisser les choses se faire. Je trouve que le président de Rennes 2 a bien fait de faire intervenir la police, parce qu'on était déjà arrivé à 100 000 euros de dégâts. L'université ne peut pas se permettre de payer 500 000 euros de réparation tous les ans. C'est de l'argent qui devrait être mis en place pour développer l'université, développer les infrastructures de l'université, donner du meilleur matériel aux étudiants, permettre au budget participatif étudiant d'être plus important. Mais aujourd'hui, bah, on paye les pots cassés de certains. La fac devient une sorte, j'ai pas envie de dire de mot dur, mais faut le voir pour le croire, quoi, parce que c'est vraiment des états.
Des images en circulent.
On dirait qu'elle est abandonnée, quoi, la fac, quoi. On dirait qu'on fait de l'urbex, et parce que je vous dis, hein, c'est tagué, c'est détruit.
On a vu des images de le voir. Circuler sur les réseaux, elles sont assez parlantes.
C'est encore plus parlant en vrai, parce que les réseaux, ça va être des clichés, ça va être certaines choses, mais de le voir en vrai, de voir tout le hall B sur une centaine de mètres complètement détruit, ça, c'est des choses très intéressantes à voir, hein, franchement. Et ça fait peur, hein. On se dit, ces gens qui sont à l'université, c'est des gens qui auront des diplômes aussi par la suite et qui vont intégrer l'administration, qui vont intégrer plein de choses. Et faut se dire, qu'est-ce qu'ils vont faire par la suite, quoi. J'espère qu'ils se réveilleront un petit peu, mais à voir.
J'avais envie de vous entendre, il nous reste 5 petites minutes, ça va aller très vite, mais aussi sur l'aspect économique des choses. On parlait de la Bretagne, de cette autonomie possible de la Bretagne, et aussi de la Bretagne dans le monde, parce qu'on le voit aujourd'hui, on est dépendant du grand monde, comme l'on dit, et il ne vous aura pas échappé qu'aux États-Unis, beaucoup de choses sont en train de bouger avec l'arrivée de Donald Trump, des coupes pures budgétaires sans précédent, des licenciements de fonctionnaires dans de nombreux domaines, dans de nombreuses agences Et la dernière en date, c'est quand même la suppression de l'équivalent de notre ministère de l'Éducation ici. Il y a une inquiétude à voir cette montée de Donald Trump et de ses idées, hein, qui gagnent aussi, y compris chez nous, ici en Bretagne, et finalement aussi de nous mettre dans une difficulté économique, parce qu'il faut bien voir que tout cela va avoir des répercussions. Est-ce que demain, une Bretagne autonome serait plus forte économiquement, pourrait répondre, alors peut-être pas aux États-Unis, quoique l'enjeu en vaut peut-être la chandelle, mais est-ce que ce serait possible peut-être d'avoir d'autres voies?
Une Bretagne autonome, j'ai envie de dire non, parce qu'elle sera toujours dépendante de l'État français, des politiques extérieures, commerciales de l'État français. Une Bretagne indépendante, oui. Parce que là, à ce moment-là, on peut négocier les droits de douane, on peut négocier plein de choses, on peut négocier les salaires avec les entreprises, on peut faire plein de choses au niveau indépendant. On est un État et un État peut se gérer. Une Bretagne autonome, bien sûr qu'elle pourra peut-être avoir des accords commerciaux, des choses, mais elle sera toujours dépendante de l'État français. Et il faut bien sûr avoir peur de Trump parce que la politique de guerre commerciale qu'elle livre à l'Europe, notamment, sur plein de choses, et les droits de douane notamment, ça va forcément impacter le quotidien de milliers, de centaines de milliers de Bretons, parce que les États-Unis sont l'un des premiers partenaires commerciaux de la Bretagne. On fait beaucoup de chiffres avec les États-Unis. Aujourd'hui, les États-Unis créent aussi de l'emploi en Bretagne. Qu'est-ce qui va venir de ces emplois? Parce que si on continue dans cette politique de guerre commerciale, les États-Unis peuvent dire tout à fait « Ah bah, on coupe nos entreprises en Europe et on va les ramener chez nous, quoi. »
C'est un peu l'idée de Trump, quelque part.
Tout à fait, il a une politique d'isolationnisme américain comme il y a pu avoir au début du XXe siècle, voire le XIXe siècle, où les États-Unis étaient un pays isolationniste qui se concentrait d'abord sur son propre pays et qui voyait les politiques extérieures comme secondaires. Là, Trump, on est quelqu'un qui veut isoler son pays, mais aussi qui veut l'élargir. Le Canada, le Panama, le Groenland, il veut aussi mettre la main mise sur les terres rares ukrainiennes. Il est dans une politique agressive aussi, M. Trump, hein, sur plein de choses.
Il négocie la paix d'une main, mais d'un autre côté, il veut aussi avoir les bénéfices de la paix, les bénéfices dans le sens sonnant et trébuchant.
De toute façon, quand on veut la paix, quand on veut la guerre, on négocie d'abord la paix. C'est une grande phrase et elle est véridique. Et là, on le voit grâce à Trump. C'est oui, bien sûr, l'Ukraine, on va vous aider, mais vous allez nous donner tous vos minerais. Ce genre de choses. L'Ukraine a dit non, écoutez, c'est compliqué pour nous, on va en avoir aussi pour relever le pays après. On peut pas tout vous donner. Du coup, qu'est-ce qu'elle dit? On arrête de vous financer militairement et maintenant vous vous débrouillez avec la Russie.
Avec une Europe très absente, finalement, un petit peu mise sur la touche.
C'est ce qu'on veut aussi nous faire croire, que l'Europe est absente, mais elle a quand même aidé militairement et de façon économiquement aussi très importante.
Je parlais dans les accords de paix.
Dans les accords de paix, oui, complètement. Oui. C'est vrai que Macron a tenté de faire beaucoup de choses. Il a rencontré M. Zelensky, il a rencontré M. Trump, il a tenté de faire beaucoup de choses. Mais au final, c'est les États-Unis qui ont pris la main mise sur le sujet. Quand ils sont allés sur la péninsule arabique et qu'ils ont négocié la trêve là, qui est en train de se faire, de 30 jours. Mais cette question de trêve, ça va permettre aussi à l'Ukraine de se réarmer, à la Russie de se réarmer, de souffler un petit peu. Mais ça, on n'est pas sur une paix. On a déjà du mal à faire une trêve. Alors, est-ce qu'on va réussir à la paix? Et une paix dans quelles conditions? Il faut aussi que les Ukrainiens puissent garder l'intégrité de leur territoire. Est-ce qu'ils vont perdre les régions du Donbass? Est-ce qu'ils vont perdre la Crimée?
On pourrait le croire si on entend, en tout cas, les propos de l'émissaire américain qui a acté, en quelque sorte.
Ils sont pour ça. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas mettre ces territoires sous le contrôle de l'ONU, comme ça peut être à la cas de la frontière chypriote? Est-ce qu'il ne faudrait pas mettre des soldats casque bleu dans cette région-là, histoire de maintenir la paix et de créer une région tampon, si vous voulez, ou une marche, comme on a bien comme les marches? À voir quoi, ce qui sera fait, mais il y a encore beaucoup de choses à faire.
Il nous reste une petite minute. On rentre en économie de guerre, en tout cas, c'est ce qu'a dit le président de la République. Pour vous, c'est un peu inquiétant, ces bruits de bottes, ce mot de guerre qui revient constamment, en fait, dans le langage des journalistes, des médias, des politiques.
Bien sûr, nous, on est plutôt pacifistes au Parti breton. On s'est montré contre le SNU obligatoire. On se montre aujourd'hui aussi contre le fait qu'il puisse y avoir un service militaire obligatoire. Que des jeunes Bretons veulent intégrer l'armée française, je peux l'entendre. Il y a toujours eu dans l'histoire de la Bretagne des Bretons qui ont été du camp de l'armée française.
Qui
ont payé cher. Il y en a qui l'ont voulu, d'autres qui ne l'ont pas voulu, qui ont été conscrits ou envoyés sur le terrain, notamment pendant la Première Guerre mondiale, où des centaines de milliers de Bretons sont morts ça a été une catastrophe. Plus de 20% des jeunes sont morts d'une génération, 20 à 50% des jeunes d'une génération sont morts. Est-ce qu'on veut ça aussi pour nos enfants? Moi, je vais avoir 30 ans, donc je risque de pas rentrer dans les critères de ses services militaires, mais est-ce que moi, un petit frère de 18 ans, est-ce que j'ai envie qu'il aille se battre au front? Bien sûr que non. Nous, on veut pouvoir, déjà qu'on arrive du mal à payer les retraites, alors en plus, il faut qu'on envoie nos enfants, ça va être très compliqué, quoi.
Le débat reste ouvert et il est vaste, mais là on va être obligé de se quitter. Maëlle Aigron, porte-parole du Parti Breton, secrétaire de la Fédération Ille-et-Vilaine du Parti Breton. Merci infiniment d'avoir été avec nous au micro de la matinale de Bretagne 5.
Merci à vous, monsieur Hamon.
Je vous souhaite une très belle journée.
À vous aussi également.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.